Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, les Orechem et Tobim, Shanim Nehemi. Nous poursuivons notre étude de la Tfila du matin. Nous sommes dans la Petiha, nous avons fini Ezehu Mekoman, le chapitre de Zvarim qui concerne les Korbanot, et nous entamons à présent la Baraita de Rabbi Ishmael, dans laquelle il est dit que la Torah est commentée de 13 manières. Ces 13 manières, ces 13 principes de déduction, sont liés aux 13 mesures, aux 13 middot, les 13 attributs de clémence. Yud gimel middot arachamim. Rabbi Ishmael dit lui-même, Rabbi Ishmael Omer, bishlosh esre middot à Torah nidreshet. La Torah est déduite des 13 middot, mesures, donc, qu'il va citer. C'est-à-dire qu'il y a ici un lien certain entre la manière de déduire, la logique intellectuelle, des principes du raisonnement talmudique, avec les midot, les fameuses midot, El Rahum Vihanu, ou Mi El Kamocha. Nous avons déjà parlé de cela. Donc ces midot-là, elles sont mentionnées tout au long de la prière. Ce sont les attributs de miséricorde qui sont... et qui sont situés dans les hauteurs les plus hautes de la volonté de Kadosh Baruch Hu quand il crée le monde. Et à chaque partie de la tefila, nous sommes en train de les réveiller, de les susciter, de faire en sorte que ces attributs déversent leur flux en ce monde. Nous avons déjà cité ces 13 attributs quand nous avons dit « Mi'el Kamocha » au début de la Petiha, au début des Korbanot. Nous sommes dans le monde de l'action, au rez-de-chaussée, nous commençons notre prière, bon, le monde de l'action. À la fin de la baraita de Rabbi Ishmael, nous allons dire Kaddish et nous allons passer au premier étage. Nous évoluons, nous montons de degré, nous passons au monde de la transformation, en l'âme à Yetzira. Et là, nous allons élever des chants de louange. C'est le concept même des psukés de Zimra, les versets de louange, des chants, qui sont composés essentiellement des chants de David. Donc pour marquer cette transition, il y a ici quelque chose qui fait le pont entre le premier monde et le deuxième. Nous les répétons ici en les mentionnant d'une autre manière, de la manière de la déduction de l'étude de la Torah. Afin de mêler et d'associer le mérite de l'étude, c'est le mérite de l'étude de la Torah qui est lié au mérite de la prière. Donc on lit, on associe à notre prière le mérite de l'étude de la Torah, qui elle-même, la Torah, suscite les énergies de bonté. Puisque les 13 manières de déduire sont liés aux 13 attributs de miséricorde, qui sont l'essentiel de la prière. Alors, les halachot, nous devons savoir que les halachot sont transmises oralement à Moshe quand il est dans la montagne. Donc, il y a deux temps à la transmission de la Torah. Avant de monter sur la montagne, le jour de Matan Torah, Kadosh Baruch Hu donne les 10 commandements. Dans ces 10 commandements-là, il y a pratiquement toute la Torah qui est mentionnée. Comme il est dit, ils entendirent ce qui est visible. Shamro et à Nira, Ve'ira'o et à Nishma. Ils ont vu ce qui est entendu et ils ont entendu ce qui est vu. Donc ils avaient une connaissance, une compréhension globale, complète de tout ce qui est donné dans les 10 commandements, qui contiennent toute la Torah en fait. Il s'agit de les déduire. Puis, mon cher Rabbi nous montre, il reçoit toute la Torah. Quand il descend, il n'a que les tables. Et le reste est toute la halakhot. Donc toute la halakhot, on les savons, l'application des mitzvot, se sait par transmission orale. Cependant, la mitzvah d'étudier la Torah, c'est de retrouver dans ces halakhot-là, dans le texte écrit. Le texte écrit lui-même sera écrit au fur et à mesure des 40 ans dans le désert jusqu'au dernier jour de la vie de Moshe. Au moment du Matan Torah, il n'y a que le Sefer Bereshit écrit et une partie du Sefer Shemot, là où il se trouve d'un point de vue historique. comme il est dit dans Parashat Mishpatim, il aura lu le Sefer HaBerit. Lors du don de Kabbalah Torah, il a lu Sefer HaBerit. Sefer HaBerit, c'est Bereshit plus une partie de, un petit début de Sefer Shemot. Donc il y a lieu de lier les halakhot transmises oralement avec le retrouver leur source dans la Torah. C'est ça la volonté de l'étude, c'est ça la raison d'être de l'étude. Le premier à avoir établi des principes de déduction, c'est Hillel HaZaken. Il était le disciple de la quatrième génération des Zougot, des pères, comme il est marqué dans Perkei Avot, Shemaya et Aftalion. Alors pourquoi il est dit deux grands maîtres de la génération qui savait déduire et interpréter les textes. La Gemara dans Psahim à la page 70. Alors Hillel a classé sept principes et sept règles qui concernent l'établissement de la halakha. Comme il est dit, Hillel HaZaken dara sheva midot lifne zikne bene betera. Hillel HaZaken va devenir exilacre, prince d'Israël. Il va prendre la place des enfants de bene betera qui ont failli à leur madriga, ils ont fait des erreurs. Donc il va les remplacer. Mais avant de les remplacer, il va devant eux et dicter, dire les sept principes de raisonnement. Alors, lesquels sont-ils? Kal vachomer, le raisonnement a fortiori. Gzera shava, la similitude entre les mots dans deux textes différents. Binyana vikato vechad, une généralisation à partir d'un cas et d'un seul verset. Binyan av, mishne ktuvim, la même chose, généralisation à partir de deux versets. Klal ou prat ou prat ou klal. Klal ou prat ou klal ou prat. Ou prat ou klal. C'est-à-dire, il y a la l'ensemble, la généralisation, et le détail. Et l'exemple. L'exemple est par rapport à l'ensemble, à la généralisation. Génération qui est suivie d'un cas particulier, et un cas particulier qui est suivi d'une généralisation. Un cas identique dans un autre contexte. Et le dernier, c'est d'abord à la med meignano, un principe que l'on apprend du contexte dans lequel il est dit. Rabbi Ishmael a complété les règles de Hillel, et en a répertorié 13. Rabbi Eliezer, ben Rabbi Yossi Galili, il a fixé sur un autre sujet 32 règles de l'étude de la déduction de la Haggadah. Alors qu'est-ce que la Haggadah? La Haggadah, ce sont les contes, les histoires, les légendes qui sont marquées dans la Gemara et dans les Midrashim. Ça a l'air d'être des histoires, mais en vérité, les Chachamim ont, à travers ces histoires, enfoui dedans tous les secrets profonds de la connaissance. Et les mystères de la sagesse, les choses les plus profondes sont marquées là-bas. Alors comment on déduit les enseignements de ces Haggadot? Il y a 32 règles qui ont été fixées par Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Galili. Pourquoi 32? Parce que ça correspond aux 32 voies de la connaissance. Comme il est dit, Lev, Netivot, Chochma, Lev, valeur numérique 32. Et Chachamim nous disent, chaque fois que tu auras l'occasion d'entendre les enseignements de Rabbi Eliezer, ben Rabbi Yossi HaGalili, alors il dit, fais de tes oreilles un entonnoir et prête l'oreille, ne laisse rien échapper. Comme il est dit à ce sujet, prête une oreille attentive à la sagesse des enseignements de nos maîtres. At Oznecha, tends l'oreille et écoute bien les paroles des sages, même si nous paraissent futiles, même les discussions futiles entre les sages. Maintenant, les 13, nous allons regarder et essayer de comprendre les 13 principes de Rabbi Ishmael. Donc, comme nous l'avons dit, ils sont liés aux 13 midot rahamim. Le premier principe, kal vachomer, déduction, raisonnement a fortiori. Alors, de quoi il s'agit? Kal vachomer. On va du plus, déduction du cas le moins grave vers le cas le plus grave. Premier exemple, l'exemple classique qui est marqué dans la Mishnah de Baba Kama, c'est Le cas de Keren. Une bête cause un dommage en encornant. Ça s'appelle Keren, la corne. Les trois premières fois, il est appelé Tam, il ne paye qu'un demi-dommage, Khatsinezek. Ce dommage n'est payé que dans le cas où l'encornement se passe dans le domaine public. La question se pose. Si la bête rentre dans un domaine privé et encorne, quel est le dîme? Quelle est la loi? Rabbi Tarfon dit, il devra payer tout le dommage. Et les Chachamim disent, il ne payera que la moitié du dommage. La Torah n'a pas parlé de ce cas. Alors comment le statuer? Le propriétaire d'une bête qui cause un dommage en mangeant des fruits, par exemple, on appelle ça chaîne. Ou si la bête piétine un objet et le détruit, ça s'appelle regel. Dans le domaine public, il est patour, il ne paye pas. Parce que dans le verset, il dit, il a envoyé sa bête et elle a causé le dommage dans un autre domaine, dans un autre champ. Donc il s'agit d'un dommage qui est causé dans le domaine privé. Dans le domaine privé, il paye tout le dommage causé. Alors nous voyons donc que dans le domaine privé, la halakha a dit, elle est plus rigoureuse. La loi est plus rigoureuse que pour le domaine public. Alors nous raisonnons ainsi. Si déjà, Regel et Shen, qui sont quittes dans le domaine public, mais ils payent dans le domaine privé, à plus forte raison, celui qui est déjà passible dans le domaine public, comme le Keren, l'encornement, à plus forte raison qu'il sera Hayav, qui devra payer dans le domaine privé. Donc avec ce raisonnement-là, nous avons rendu Hayav l'encornement dans le domaine privé. La question maintenant qui nous reste à résoudre, est-ce combien il doit payer? Est-ce que, de la même manière que dans les trois premières fois, disons, de la même manière que dans le domaine public, il ne paye que la moitié du dommage si c'est les trois premières fois, la même chose dans le domaine privé? Ou peut-être que non. Nous allons voir. Dans le domaine public, il est de la moitié, le remboursement est de la moitié du dommage. Pour le domaine privé, est-il du même montant ou peut-être le double? Alors Rabbi Tarfon dit le double. Pourquoi? Parce que le cas de référence, c'est la dent et le pied. Chêne et Regel ne sont pas redevables dans la rue. Ils sont pas tours. Alors que la corne, elle doit déjà payer la moitié du dommage dans la rue. Donc si déjà, ça veut dire si tu dis que Chêne et Regel qui payent le dommage entier dans le domaine privé, mais eux, ils sont pas tours dans la rue. Mais celui qui est déjà hayab d'une demi-remboursement dans la rue, a plus forte raison qu'il devra payer tout le dommage dans le domaine privé. Ça, c'est l'avis de Rabbi Tarfon. Chachamim n'accepte pas ce raisonnement. Il apporte une preuve tirée de la Torah elle-même. Il s'agit de l'épisode où Myriam a été frappée de la lèpre pour avoir parlé sur Moshe. Quand Moshe parle à Hachem et implore et lui dit de grâce guéris-la, Hachem lui répond, si son père lui eût craché au visage, elle se serait mortifiée pendant 7 jours. Elle aurait été chassée, punie pendant 7 jours. Elle se serait sentie mal pendant 7 jours. Pour son père, 7 jours. Et pour Hachem, alors au moins 14 jours. J'aurais dit au moins le double. Le verset dit qu'elle ne soit séquestrée 7 jours. Donc Myriam a été lépreuse que pendant 7 jours. Elle a été retranchée du camp que pendant 7 jours. C'est-à-dire que ce que je veux apprendre, c'est-à-dire la punition de Myriam parce qu'elle a offensé Dieu, elle est identique au cas de référence qui est le père. Si pour le père 7 jours, j'aurais pu penser que pour Hachem c'est le double. Eh ben non, il est suffisant d'appliquer au cas que je veux déduire, la même halakha que le cas de référence. Comme il est dit, Dayo lavo minadin liot kanidon. Donc, si c'est ce principe-là, l'encornement ne sera redevable que de la même somme dans le domaine privé comme dans le domaine public. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, Rashi, sur la Boraïta, donne l'exemple suivant. Dans la Boraïta de Rabbi Ishmael. Lorsque tu verras qui tirait et hamor san acha roves tahat masao, si tu vois l'âne de celui que tu n'aimes pas, que tu détestes, s'effondrer sous sa charge, tu ne t'abstiendras pas de l'aider. Azov, ta Azov imo, tu porteras avec lui. La question se pose, cette obligation ne s'applique que pour la bête de celui que tu détestes? Uniquement, a priori. Parce que le pasuk dit, qui t'irait, hamor, san, achar, oves, sahad, masaosi, tu vois l'animal de celui que tu n'aimes pas. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Quelle est la loi si je vois l'âne de mon ami s'effondrer? Y a-t-il une mitzvah de l'aider? Comment le déduire? Nous l'apprenons par le raisonnement suivant. Si je dois porter l'aide, apporter mon aide à celui que je déteste, et je dois porter avec lui le fardeau, à plus forte raison que je dois le faire pour un ami. Mais si ces deux se présentent à moi, est-ce que je donnerai la priorité à mon ami ou je donne la priorité à celui que je déteste? La Gemara dit non, car le cas déduit ne peut dépasser le cas de référence. Encore une fois, tu ne pourras pas donner priorité au cas que tu as déduit, celui ton ami, puisque tu l'as appris de Kalva Homer. Tu vas pas le faire passer avant, prioritaire, par rapport à celui qui est le cas de référence. D'ailleurs, la Vominadin, Yot Kainot, c'est exactement le même cas de ce que nous avons dit. Il est suffisant, pour le cas que je déduis, de lui appliquer exactement la même règle du cas de référence. Ça, c'est première Mida, Kalva Homer, qui correspond à la Mida de El, qui est Dieu tout-puissant de bonté et d'amour. C'est la source absolue de la bonté. Il n'y a, à ce niveau-là, il n'y a pas de place pour aucune rigueur. Deuxième principe, Gezera Shava, la similitude entre les mots. On prend un exemple. Il est dit au sujet de l'esclave juif, lorsque tu achèteras un esclave hébreu, Kitikine Eved Ivri, il servira 6 années, Sheshanim Yavod, et la 7e, il sortira libre. C'est marqué dans Mishpatim. Maintenant, si le serviteur ne veut pas quitter son maître, il est dit, son maître lui poinçonnera son oreille avec un poinçon et il le servira pour toujours. Donc, si l'esclave dit, j'aime mon maître, etc., lo yetzeh hofshi, il dit, v'yigisho adonav ela elohim, v'yigisho ela delet o ela mezuza, v'yratza et ozno v'marsea, il lui poinçonnera l'oreille avec un poinçon, et va avadoler olam. Il lui servira pour toujours. Toujours, c'est jusqu'au yovel. La Gemara demande, mais quelle oreille tu poinçonnes? De la droite ou peut-être la gauche? On apporte un cas de référence, où le mot oreille est déjà employé, en précisant qu'il s'agit de la droite. Comme le dit la Gemara dans Kiddushin à la page 15. De quoi il s'agit? Au sujet du processus de purification du lépreux, il est dit, le Kohen, donc il est lépreux, il reste un temps, il est en quarantaine à l'extérieur de la ville. Donc après il guérit, il doit apporter les korbanotes. Maintenant, dans le processus de purification grâce au korban, on doit prendre du sang, le Kohen doit lui faire un processus, donc il prend du sang et il lui asperge le sang. Alors il dit, le Kohen prendra le sang du Hachin, le sacrifice du lépreux, et l'appliquera al-ozen ayemanit, sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie. Là-bas, il est marqué l'oreille droite. Dans notre cas, le mot oreille est employé sans précision. Dans le cas du lépreux, il est précisé l'oreille droite. Alors, nous appliquons le principe, ce qu'on appelle Gezera Shava. Ici, quand il est dit oreille, on ne sait pas de quelle oreille. Là-bas, quand il est dit oreille, il s'agit de l'oreille droite. Alors le mot oreille, chaque fois que je le trouverai marqué, il s'agit de l'oreille droite. C'est le principe de Gezera Shava. C'est l'analogie. J'applique à ce terme-là, il a ce sens dans un cas, je l'applique à l'autre, dans l'autre verset, je lui applique le même sens. Donc il s'agit de l'oreille droite. Troisième principe. Il y a évidemment d'autres exemples, mais on ne va pas alourdir le cours. C'est un exemple suffisant. Principe de généralisation. Binyan Av, à partir d'un verset. Binyan Av, Mikatoveha, Binyan Av, Mishneketovim. Donc nous sommes à partir d'un verset. Il est dit au sujet du témoin. ne se lèverait pas un témoin unique contre un homme pour tout crime ou pour toute infraction. Donc on ne peut pas accuser quelqu'un et condamner avec le témoignage d'un. Par la bouche de deux témoins ou de trois témoins, alpish naim edim, oh shlosha edim yakum davar, la chose sera établie. Alors la question est dit ici, pourquoi est-il précisé un témoin unique? Le yakum ed ehad, un témoin unique. Il est suffisant de dire un témoin. Pourquoi ed ehad? Ed, ça veut dire un, c'est un singulier. De là, nous apprenons que chaque fois que la Torah dit « aide, témoin », même quand il est employé au singulier, il s'agit d'au moins deux témoins. « Aide », c'est, en réalité, c'est pas un témoin, c'est une témoin, un témoignage. Et la validité du témoignage ne peut se faire qu'à partir de deux, comme il est dit plus tard. C'est ce qu'on appelle, donc chaque fois que le mot « aide » va apparaître dans la Torah, on va faire « binyan » à partir du cas mentionné, et on va généraliser ces deux témoins. Deuxième exemple. Au sujet des travaux autorisés les jours de fête. Ah, hacher yachel echol nefesh ou les badouya, c'est la chem. Donc il est dit, c'est marqué dans Pessah, vous ne travaillerez pas les jours de fête. Ah, cependant, tout ce qui sera nécessaire pour ochel nefesh, pour se nourrir, vous aurez le droit de le faire. Cela est dit au sujet de la fête de Pessah, comme nous l'avons dit. Ce pasouk-là est marqué dans Pessah. Et peut-on appliquer aux autres fêtes? Peut-être c'est seulement dans Pessah. Maintenant, dans Shavuot et Sukkot, est-ce qu'on l'applique? Est-ce qu'à Rosh Hashanah, on peut cuisiner? Alors, la Gemara dit, Chacham nous dit, cette autorisation est généralisée à toutes les autres fêtes. Elle est écrite pour Pessah. Parce que cette fête est la première de toutes. Comme dit le verset, à la fête des Matzot, on doit faire aller à la Régel, on doit monter au temple, faire les fêtes de pèlerinage, et dans lequel ordre cela est dit, Pessah, Shavuot et Sukkot. Donc, comme cette halakha-là, elle est marquée dans Pessah, non pas parce que c'est juste dans Pessah qu'elle est marquée, et pas pour les autres, mais parce qu'elle est, la Pessah est la première des fêtes. Donc, comme c'est la première des fêtes, on prend, donc, ce qui est marqué dans Pessah, et on le généralise à tous les autres fêtes, même Rosh Hashanah qui n'est pas une fête de pèlerinage. Nous allons voir maintenant Binyana ou Mishneh Ketuvim à partir de deux versets. La Mishnah a dit, voici les ouvriers qui mangent de ce qui sont en train de cueillir. C'est marqué dans le passo, qui t'avo be kerem re'acha, achalta anavim sovreha. Donc quelqu'un qui vient et qui travaille dans le champ ou dans la vigne de son prochain, il aura le droit de manger des fruits qu'il cueille jusqu'à satiété. Voici les ouvriers, c'est ce que la Mishnah a dit devant Messia. Voici les ouvriers qui mangent de ce qui sont en train de cueillir, de ce qui est en train d'être coupé, tant que le travail n'est pas fini. Des fruits récoltés qui poussent de la terre. La Gemara demande, comment apprend-on que l'ouvrier peut manger de ce qui n'est pas encore coupé? Donc peut-être qu'il s'agit de ce qui est déjà coupé, mais ce qui est encore sur l'arbre, est-ce qu'il a le droit de le manger? Alors il est dit au sujet de l'employé qui travaille à la vigne. Quand tu viendras, quand tu viendras dans la vigne de ton prochain, tu mangeras des raisins à satiété. Jusqu'à satiété. Tu ne mettras pas c'est ce que tu cueilles dans les paniers pour l'emmener à la maison. Tu n'as pas le droit de le faire. Le verset cite la vigne. Peut-on généraliser à tout ce qui pousse de la terre? On peut, a priori, si c'est un vigne, c'est un cas, un exemple. J'aurais pu dire, même si c'est des pommes, ils cueillent des pommes, des oranges, n'importe quoi. Ou des fraises. La Gemara l'objecte. Elle dit non, la vigne est un cas à part. Car il y a une obligation pour le propriétaire de laisser les jeunes raisins, comme il est dit. Et la vigne, tu ne grappilleras pas. Il y a une mitzvah de laisser pour le pauvre. Alors on ne grappille pas, on ne doit pas tout cueillir et doit laisser quelques jeunes pousses des raisins qui ne sont pas encore parfaitement consommables, mûrs, les laisser pour les pauvres. La Gemara apporte alors un verset. Quand tu viendras dans la récolte de ton prochain, kitavo bekamat recha, tu cueilleras les épis avec ta main. Bekatavta melilot beadecha. Les melilot, ce sont les épis. tu ne dois pas porter la faux sur la récolte. Ici, il est bien dit, des épis qui sont encore sur pied. Peut-on alors déduire la vigne des céréales? On dit, comme les céréales, c'est ce qui sont encore sur pied, alors, puisqu'il n'a pas encore porté la faux, donc ça veut dire qu'ils sont encore debout, donc il a le droit de les manger quand ils sont encore sur pied. Est-ce que dans la vigne, c'est identique? Alors, on objecte que pour la récolte des céréales, on doit faire le prélèvement de la hala sur le pain. Donc, il faut prélever la trouma sur le pain. Hala, hala, terouma. Alors, ça n'existe pas dans la vigne. Réponse. La vigne possède une particularité. Celle de laisser les jeunes pousses pour les pauvres. Alors, ce manque-là, c'est donc la particularité qu'il y a dans la vigne. Elle est corrigée par la récolte du blé. Donc, ça équilibre. Cette particularité n'existe pas pour les céréales. Et malgré tout, l'employé a le droit d'en manger. Cependant, les céréales ont elles-mêmes une particularité, qui est le prélèvement de la hala, qui n'existe pas dans la ville. Atzad achavé chez Bahem. Donc, ce qu'on retrouve dans les deux, chacun, nous avons la vigne et les céréales. La vigne a une particularité qui est qu'il faut laisser les jeunes pousses. Les céréales, c'est qu'on doit prélever la hala. Les céréales, c'est marqué quand il peut manger, même si c'est encore sur pied. Alors que dans la vigne, a priori, il pourrait manger uniquement de ce qu'il a cueilli. Est-ce qu'on peut identifier les deux? Alors, dans l'exemple, ce qui se retrouve dans les deux exemples, nous pouvons gêner, c'est que on peut manger et que chacun a une particularité. C'est que dans les deux cas, il peut manger. Donc, on peut généraliser à toutes les autres récoltes l'autorisation pour l'employé de se consommer de ce qu'il est encore en train de couper. Nous avons fait ici les trois premières midot de Rabbi Ishmael. Poursuivrons au cours suivant. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.